Salut tout le monde. Aujourd'hui, on poursuit la série Les électrolytes, nos amis, puis on va parler de la natrémie. On part ça.
Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques.
Fait que comme je disais d'entrée de jeu, on poursuit notre série Les électrolytes, nos amis, puis on va parler de la natrémie aujourd'hui, hein, le sodium. Fait que pour en parler, j'ai avec moi Yann. Salut Yann.
Salut Mathieu, comment ça va aujourd'hui?
Ah, ça va bien, toi?
Super.
C'est un sujet qui nous passionne tous les deux, mais qui passionne un de mes grands amis, mon ami néphrologue, docteur Louis-Frédéric Martin. Salut Lou-Fred.
Salut à vous.
Content que tu sois avec nous pour parler de la natrémie, un sujet qu'on a une passion commune, qu'on pourrait dire. Juste pour le bénéfice des auditeurs, je te laisserai te présenter.
Donc, je me présente, Louis-Frédéric Martin, néphrologue à l'hôpital Honoré-Mercier de Sainte-Hyacinthe depuis maintenant 8 ans. Ça ressemble un peu à ça, en fait. Là, je fais à l'hôpital, je fais un peu de tout. Je fais des soins intensifs, je fais de la dialyse, je fais bien sûr tout ce qui est des tâches intra-hospitalières. Là. Ça ressemble un peu à ça.
Néphrologue dans la plus pure tradition,
La
finalement.
plus pure tradition du terme.
Fait que, dans le fond, la natrémie, c'est un peu le pain puis le beurre d'un néphrologue, si on veut. Fait que j'aimerais ça qu'on en discute un peu, mais tu sais, sans rentrer trop dans les détails non plus, là. Je sais que tu as une approche quand même assez particulière de la natrémie. Puis je la trouve quand même assez intéressante. Fait que j'aimerais, pour le bénéfice des auditeurs, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Et pour les auditeurs, dans le fond, il y a un tableau dans les notes de la balado. Je vous invite à aller le regarder pour être capable de comprendre un petit peu et de suivre ce que Loufred va nous parler. Je te laisse nous en parler un peu, Loufred.
Il n'y a pas de problème. Donc, en fait, le tableau que vous allez retrouver, c'est un tableau que je fais souvent à mes résidents quand j'essaie de leur expliquer un peu l'hyponatrémie, parce que ce n'est pas un sujet nécessairement clair pour tout le monde. Donc, il faut comprendre que le tableau, c'est vraiment pour l'hyponatrémie hypoosmolaire. Donc, dans les hyponatrémies, il y a les hyponatrémies hyperosmolaires, isoosmolaires, hypoosmolaires. Pour les hyperosmolaires, les isoosmolaires, c'est vraiment un autre chapitre, souvent de causes assez faciles à retrouver dans l'histoire ou l'administration de médicaments du patient. C'est souvent l'hyponatrémie hypoosmolaire qui est la plus fréquente, qui va causer le plus de problèmes au niveau diagnostic. C'est pour ça que j'aime bien faire ce petit tableau-là pour que les gens comprennent comment faire leur schéma de pensée pour trouver le bon diagnostic. Il faut comprendre qu'en hyponatrémie hypoosmolaire, la première étape, c'est de savoir qu'est-ce que le rein ressent. Il y a vraiment donc deux axes hormonaux qui vont vraiment jouer sur les reins. Il y a l'ADH et il y a le système rhénino-angiotensine aldostérone. Et ces deux axes-là sont très facilement identifiables au niveau du bilan urinaire. L'osmolarité urinaire représentant l'effet de l'ADH et le sodium urinaire représentant le système rhénino-angiotensine aldostérone. Et moi, normalement, quand on a ces deux éléments-là, on est pas mal capable de savoir la cause de l'hyponatrémie hypoosmolaire. Comme vous pouvez voir dans le tableau, on peut vraiment les classer dans trois cases. Il y a une case qui est un peu le point d'interrogation que je dis toujours à mes résidents. Il n'y a rien qui se ramasse dans cette case-là. Malheureusement pour moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un cas qui se ramasse dans cette case-là. C'est les cas un peu moins clairs qui finissent par avec les journées qui passent, pour se clarifier et retomber dans une des trois autres cases, tout simplement. Donc, si on y va case par case, donc la première case que vous avez, c'est la case que tout le monde redoute, donc la case où est-ce qu'on met le SIADH. Pourquoi est-ce que dans cette case-là, on va avoir les paramètres qu'on voit? Ben, c'est assez simple. Donc, grosso modo, vous avez une sécrétion d'ADH. Donc, votre osmolarité urinaire va être augmenté. Et ce faisant, vous allez avoir un volume circulant augmenté par cette réabsorption d'eau-là, qui va, par le fait même, inhiber votre système rhénino-angiotensine aldostérone. Parce que comme vos reins sont bien perfusés, il y a un bon volume circulant, on n'a pas besoin de réabsorber plus de sodium, et le sodium va passer tout droit. Et c'est pour ça que votre sodium urinaire va être haut, votre osmolarité urinaire va être également élevée. Les autres choses qui vont causer ces paramètres-là spécifiquement, c'est les insuffisances rénaliennes, c'est les hypothyroïdies sévères, tout à cause de l'axe qui va venir entraîner une sécrétion finalement d'ADH. Donc, dans les autres cas où l'osmolarité urinaire va être augmentée, mais que le sodium urinaire va être bas, c'est dans tous les cas où est-ce que le volume circulant efficace va être diminué. Et c'est là que l'évaluation de la volémie du patient va rentrer en cause. C'est-à-dire, vous avez un patient hypovolémique, ben c'est pour ça que votre volume circulant n'est pas efficace. Donc, vous allez avoir souvent des apports hypotoniques, des patients donc, qui ont eu de la diarrhée, qui ont vomi, qui n'ont pas été capables d'avoir un apport osmolaire suffisant par rapport à l'apport hydrique qui a été administré. Contrairement à vos patients, les autres qui vont être hyper voléniques, c'est là qu'on va aller chercher nos insuffisants cardiaques, nos cirrhotiques. Qui sont pleins en extravasculaire, mais qui sont vides en intravasculaire. Ce faisant, vos reins perçoivent une hypovolémie, même si on est hypervolémique, ça active votre système rénino-angiotensine aldostérone et votre sodium urinaire va être bas. Et comme votre volume circulant efficace est bas, bien, même chose, on a les barorécepteurs stimulent la sécrétion d'ADH et l'osmolarité urinaire va être augmentée. C'est pour ça que c'est assez facile à ce moment-là de pouvoir les classer dans une case ou l'autre. Le gros problème entre ces deux cases-là, je vous dirais, c'est quand la volémie, on ne sait pas trop, le patient est un peu dur à évaluer au niveau de la volémie, puis là, on se ramasse avec des valeurs un peu mitoyennes. Un sodium urinaire, il n'est pas inférieur à 20, il n'est pas au-dessus à 40. Une osmolarité urinaire, qui est proche de mon osmolarité sérique, fait que je ne peux pas vraiment dire si j'ai beaucoup d'ADH ou pas. Un des trucs qu'on peut utiliser dans ce temps-là, c'est le dosage de l'acide urique sérique. Pourquoi? Parce que l'acide urique est réabsorbé au niveau du tubule proximal. Et donc, quand votre système rénine-angiotensine aldostérone est activé, on en réabsorbe plus par co-transport avec le sodium. Donc, vos paramètres ne sont pas trop clairs, vous n'êtes pas trop certain, dosez un acide urique. S'il a tendance à être haut, c'est que votre système rénine-angiotensine est activé. On parle donc d'un bas volume circulant efficace, puis on se retrouve dans la case de droite. Votre acide urique est bas, on se ramasse donc avec un tubule proximal qui ne fonctionne pas beaucoup, donc un système rénine-angiotensine aldostérone qui n'est pas vraiment présent. Donc, on se ramasse plus dans la case de gauche avec les SIADH. Après ça, il y a toute l'autre partie où est-ce que votre osmolarité urinaire est basse. Ça veut dire que vos reins font ce qu'ils peuvent. Ils veulent vraiment excréter le surplus d'eau. Il n'y a pas d'ADH qui les empêche de le faire. Puis ils essaient vraiment de compenser le plus possible, d'excréter le plus d'eau possible pour ramener votre natrémie adéquate. Mais ils ne sont pas capables de le faire parce que soit que l'apport en eau est trop élevé ou que l'apport en osmol est tellement bas qu'ils ne sont pas capables d'excréter l'eau. C'est-à-dire que, indépendamment de ce que vous mangez, si vous mangez même très, 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 très peu, vous ne pouvez jamais excréter de l'eau claire. Vous l'excrétez toujours avec un minimum de concentration d'osmol. Un rein sain, ça va être 60 milliosmol, pour ainsi dire, par litre. Mais plus on vieillit, plus on perd cette capacité-là. Donc, plus la capacité de dilution des urines se perd. Et donc, si vous ne mangez pas beaucoup d'osmol, vous ne serez pas capable d'excréter beaucoup de litres d'eau. Et donc, moindrement que vous allez dépasser la quantité que vos reins sont capables d'excréter, vous allez commencer à tranquillement vous diluer, faire une petite hyponatrémie chronique. Le TNTOS peut rentrer dans cette catégorie-là, la potomanie à la bière qu'on appelle, là, donc les gens qui vont avoir tendance à boire beaucoup en alcool, donc ils ne vont pas être secs, ils vont être pleins, donc ils vont inhiber leur ADH, mais ils n'ont tellement pas d'osmol pour sécréter cette bière, ce liquide-là, qui vont finir par se diluer à la longue. Et c'est vraiment dans cette case-là qu'on va retrouver ces conditions-là.
Et c'est vraiment bien. J'adore ça parce qu'au fond, l'algorithme qu'on est habitué de voir, qu'on peut trouver dans nos livres visuels, comme je sais pas, le Lantier ou ces livres-là, c'est bien, mais c'est un peu lourd. On dirait que ça simplifie les affaires. Puis, alors qu'on connaît ça pour ceux qui ont eu à traiter de l'hyponatrémie, ça donne comme une nouvelle perspective. Alors, c'est vraiment une approche différente de l'hyponatrémie. Là. J'adore vraiment ça. Maintenant, Louis-Frédéric, un coup qu'on a fait notre diagnostic, il faut commencer avec le traitement parce que c'est pour ça qu'on est là. Donc, ton approche du traitement, dans les faits, je ne veux pas qu'on passe ça case par case, mais j'aimerais savoir un peu ton opinion sur quand est-ce que tu vas faire une restriction, quand est-ce que tu vas donner du 3%, quand est-ce que tu vas donner un soluté standard ou quand est-ce que tu vas absolument rien faire, tu vas juste observer. Es-tu capable d'un petit peu de me donner ton approche générale là, pour l'hyponatrémie?
L'approche générale, c'est sûr que là, on parle pour des hyponatrémies qu'on croit chroniques, là, parce qu'une hyponatrémie aiguë qui s'est occasionnée dans le moins que 24 heures peut être corrigée aussi rapidement qu'il est arrivé sans aucun problème. Donc, mettons, on prend l'exemple du potoman qui a bu beaucoup, puis qui après ça se met à uriner, puis que l'anatrémie se met à se corriger rapidement. Si on sait que ça s'est fait en dedans de 24 heures, aucun problème, laissez-le se corriger, laissez-le uriner, il n'y aura pas de séquelles neurologiques. Le gros problème, c'est que la majorité des hyponatrémies qu'on attrape, et on ne sait pas ça fait combien de temps qu'ils sont là. Fait que, moment qu'on dépasse le seuil du 48 heures, les séquelles sont possibles. Donc, c'est toujours à ce niveau-là qu'il faut vérifier pour s'assurer d'avoir une correction qui ne causera pas plus de tort que de bénéfice. Donc, quand vous attrapez votre patient avec une natrémie, qu'elle soit à 125, 120, 115, l'important, c'est est-il symptomatique et est-ce que ces symptômes-là sont sévères? Parce que si votre patient ne convulse pas à 115, mais il ne convulsera pas plus à 116 ou à 117 ou à 118. Donc, si vous l'attrapez à 115, que vous trouvez donc que c'est quelque chose de chronique, que vous avez découvert la cause, que, ben, c'est soit SIADH, c'est son thiazidique, c'est un apport hypotonique, mais vous n'avez pas besoin d'y partir un 3% juste parce qu'il est à 115. T'sais. On va le partir s'il est symptomatique, sévère. Si on pense qu'il est sur le bord de convulser ou qu'il est sur le bord de l'œdème cérébral, ben là, c'est correct, on se comprend. Mais si vous pensez être capable de le corriger lentement à partir de ce moment-ci, on aime mieux éviter une correction trop rapide que de vouloir être trop agressif sur le traitement d'emblée.
Je pense qu'il y a beaucoup trop de 3% débutés rapidement. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais je pense qu'on devrait se retenir un peu et avoir le doigt moins vite là, sur le trigger, sur la gâchette par rapport aux 3%.
Bien, c'est sûr que nous, ce qu'on dit à nos urgentologues, c'est avant de partir en 3%, appelez-nous. on aime mieux, sans dire garder la mainmise dessus, mais au moins s'assurer qu'on le part pour les bonnes raisons. Parce que c'est vrai que souvent, le chiffre nous énerve beaucoup, puis on a tendance à vouloir mettre le 3% rapidement. Puis, ce faisant, on arrive souvent des fois avec des corrections qui ont été faites un peu trop rapidement. On est pris à lui donner un petit peu de desmopressine ou mettre un dextrosé. Puis, on finit par essayer de peser sur le frein puis sur le gaz en même temps. Puis, ça devient un peu plus compliqué à gérer. Tandis qu'il y a un patient qu'on sait qu'on est capable de corriger lentement. Si c'est ça le symptôme, c'est que je suis fatigué, j'ai un peu mal au cœur, on va préférer le corriger lentement. Puis, la majorité du temps, ça va être en s'assurant que restreignent au niveau des liquides la majorité du temps, ce soit à voir s'ils sont hypovolémiques, bien sûr, là, mais s'ils ne sont pas hypovolémiques, restriction liquidienne, s'ils sont capables de s'alimenter, on peut leur donner des comprimés de sodium pour les aider à remonter tranquillement. S'ils sont hypervolémiques, bien là, c'est certain que les diurétiques de l'anse vont être efficaces à ce niveau-là aussi, mais encore une fois, on n'a pas besoin d'y aller trop raide dès le départ. On y va avec des suivis rapprochés de natrémie. On sait que quand on a une hyponatrémie sévère, ben, malheureusement, ça va prendre beaucoup de suivi. Quand on voit un sodium à 110 arriver, on sait qu'on va se faire réveiller aux 2 heures pour les taux de natrémie. Mais c'est malgré tout ce qui est le plus sécuritaire pour le patient, c'est de le corriger et de le corriger adéquatement. Et adéquatement, c'est malheureusement le plus lentement possible. T'sais.
Oui, tu as raison que lorsqu'on a une hyponatrémie, on sait qu'on ne dormira pas beaucoup, mais bon, ça fait partie du travail. Mais justement, tu viens d'expliquer les vitesses de correction. Puis pendant longtemps, là, je ne sais pas, dans les 15-20 dernières années, on corrigeait, on avait comme notion que le premier 24 heures, ben, on corrige avec 12 millimoles, puis après ça, sur le premier 48 heures à 18, donc un 6 millimoles dans le deuxième 24 heures. Maintenant, il semblerait que les guidelines semblent avoir réduit ça à 8 millimoles par 24 heures. Personnellement, je trouve ça un peu difficile parce que je trouvais que le 12 et le 6, ça fonctionnait bien. J'ai personnellement été chanceux. Je n'ai jamais eu de démyélinisation pontique. Alors, j'aimerais ça savoir un petit peu ton son de cloche là-dessus. Pourquoi ils ont décidé de diminuer ça un peu alors que ça semblait bien fonctionner? Mais j'imagine qu'il y avait une raison justifiable derrière ça.
Il y avait une raison. En fait, c'est certain que la majorité des patients qu'on corrigeait de 12 en 24 heures, puis ensuite ben, de 6 sur le 24 heures subséquent pour faire le 18 en 48 heures, s'en sortaient sans aucune séquelle. Ce qu'ils se sont rendus compte, par contre, c'est que malgré tout, il y en a quelques-uns qui, dans cette correction de 12 en 24 heures, faisaient malgré tout le syndrome de déminéralisation osmotique, surtout chez les patients qui ont des dénutritions sévères. Puis, malheureusement, ça fait quand même partie beaucoup de notre clientèle hyponatrémique, les dénutritions sévères, quand on regarde nos TNTOS puis les potomanies, les beer potomania qu'ils appellent. Donc, des patients un peu soit alcooliques ou des patients très dénutris. Et c'est pour ça que la norme a été réduite à 8 habituellement en 24 heures, puis même, vous allez voir certaines guidelines qui disent des fois 6 en 24 heures. L'important, c'est vraiment de se dire, de le corriger lentement. Puis si votre patient se corrige de 12 en 24 heures, vous n'avez pas besoin de peser sur le bouton panique puis de commencer à mettre du DDAVP et du dextrose pour le ramener en 8 en 24 heures nécessairement. Mais clairement, pour le prochain 24 heures qui suit, vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment ralentir votre correction pour essayer de vous garder à peu près cette moyenne-là de 8 par 24 heures. Puis le but, c'est vraiment d'éviter ces syndromes de déminisation osmotique parce que ça reste que c'est une complication qui, même si elle est rare, est grave et irréversible. Donc, si on n'a pas d'urgence à vouloir corriger le sodium trop rapidement, on va vraiment essayer de se limiter à ce 6 à 8-là par 24 heures.
Loufet, tu parlais de peser sur le frein avec le DDAVP. Moi, je suis curieux de t'entendre. Dans quelles circonstances tu utilises le DDAVP?
Vraiment, chez les patients qui vont s'être corrigés beaucoup trop rapidement. Là, je vous donne l'exemple de les patients qui, justement, mettons, ils ont soit une correction trop rapide avec un 3 % ou à l'inverse, admettons, un patient qui était hypovolémique et que là, on a simplement répété avec un normal salin parce que bon, ses pressions étaient basses, il était hypovolémique, c'est correct. Sauf que moins de mal qu'on résout l'hypovolémie, la sécrétion d'ADH s'éteint et la diurèse reprend. Et là, on se ramasse avec une diurèse importante. Et la correction trop rapide risque de survenir à ce moment-là. Donc, dans des circonstances où on est capable d'anticiper une correction très rapide sur une débâcle urinaire, bien, c'est sûr qu'on va essayer de partir le DDAVP avant pour ralentir la diurèse, puis vraiment avec des suivis, comme je vous dis, rapprochés de l'atrémie. Et dans les cas où la correction va vraiment avoir dépassé le 12 en 24 heures, bien là, c'est certain que, bien, dépendant de la raison pour laquelle ça a été dépassé, on va couper l'élément, soit le 3 % de normal salin qui avait été instauré, mais souvent, on va redonner une dose de DDAVP pour le ramener à ce maximum vraiment de 12 en 24 heures. Puis, si possible, de le ramener du 8 en 24 heures, ça va être l'idéal.
Puis là, tu viens de parler de débâcle urinaire. Fait que moi, ça m'amène au suivi aussi de la diurèse. Parce que on sait que c'est un truc qui est important. Puis j'aimerais ça, là, vous entendre, vous faire réveiller parce que le patient s'est mis à pisser là, en bon québécois. Là. C'est-tu quelque chose qui est correct ou
oui,
on laisse faire
oui,
aller?
Oui, oui, oui. Non. On veut être réveillé quand la débâcle urinaire arrive. Parce que justement, si on se fait juste se faire dire le lendemain matin, mais on va avoir pris beaucoup de retard, puis la natrémie risque d'avoir pris un méchant bond.
Oui, tu sais, je pense à nos potomanes là, qui ne sont pas juste aigus, là, qui boivent à tous les jours, puis à un moment donné, ils arrivent hospitalisés, puis ils ont uriné 5000 dans la nuit. Si je ne le sais pas, ça se peut que mon sodium aille monter vite. Là. Oh. Donc, je veux le savoir, je veux le bloquer, ou je veux au moins peut-être le faire boire un peu pour répléter, pour contrôler la montée rapide du sodium. Là. Mais c'est sûr que la nuit, c'est plus difficile de les faire boire, mais en général, ils aiment se boire, ces gens-là, fait que ça peut aider. Mais non, effectivement, Mathieu, il faut le savoir. Puis c'est peut-être aux médecins aussi de prescrire des paramètres d'aviser si plus de 250, 500 par 8 heures. Au même titre que nos patients qui ont des diabètes insipides neurogéniques, là, qui sont en mort cérébrale, dons d'organes, on veut toujours le savoir lorsqu'un patient urine à des quantités incontrôlables.
Fait que de ce que je comprends, là, le suivi de la natrémie, donc les labos en soi, puis la diurèse, c'est deux trucs qu'on va faire super serrés, puis que je peux vous appeler pour vous réveiller. Là.
Tout à fait.
Absolument. Puis moi, je rajouterais un truc. Nous, on a organisé ça avec notre laboratoire. Quand on a des patients comme ça, là, hypo, puis on fait nos bilans aux 2 heures, si mon bilan sort 2 heures après, ça me donne absolument rien. Je veux dire, je suis en retard continuellement. Donc, le deal, c'est quand le laboratoire le sait, qu'on a un patient comme ça, bon, on va faire des bilans aux 2 heures, ils doivent nous sortir les résultats en 45 minutes. Et à ce moment-là, le laboratoire priorise à chaque fois que le labo arrive au nom du patient pour faire ce que nous, on appelle le CX7, là, tout dépendant comment vous appelez ça dans vos hôpitaux, là, mais le laboratoire d'électrolytes de base. Donc, de cette façon-là, vous êtes certain que si, par exemple, vous le faites à 2 heures du matin, ben à 2h45, vous avez votre résultat, vous êtes capable de vous ajuster avant le prochain labo à 4 heures du matin.
Ah, ça, c'est un super bon truc, ça. Il y avait aussi un autre truc, Loufred, tu parlais de NS, mais tu sais, le NS, on a de plus en plus tendance à le délaisser au profit du lactate ringé, par exemple, puis je vais être curieux de t'entendre, puis Yann aussi là-dessus. Est-ce qu'il y a un des deux solutés qu'on devrait privilégier ou...
Ben, en fait, pour la correction de la natrémie, je vous dirais que le NS ou le lactate ringé vont, dans les deux cas, être supérieur en concentration de sodium à la concentration du patient. Et après ça, c'est juste d'ajuster le débit pour être certain que votre montée est adéquate. Donc, que vous préfériez mettre du normal salin, que vous préfériez mettre du lactate ringé, je vous donne plusieurs raisons autres que la natrémie pour choisir l'un et l'autre. Mais dans un contexte d'hyponatrémie, les deux se valent tant qu'on n'est pas en contexte de SIADH, parce que c'est sûr que quand on est en contexte de SIADH, on évite l'un et l'autre.
Oui, il faut juste être conscient de ce qu'on donne. Là. Donc, on va savoir que ça peut monter un peu plus vite là, avec l'ENS, parce qu'il y a 154 par litre, alors que le lactate, il y a 130. C'est un petit peu ça que je dirais là-dessus.
Fait que finalement, le soluté, c'est un médicament.
Jour.
Tout à fait.
On le répétera jamais assez. Il n'y a rien de normal dans le normal salin.
Ça, c'est vrai.
Je pense que tout le monde le sait qui nous écoute que je déteste l'ENS, mais bon, c'est viscéral.
Mais juste pour le fun fact, hein, au Canada, les solutés ont un DIN, donc un Drug Identification Number. Donc, sont au sens de la loi canadienne, les solutés sont légalement des médicaments. Fait que ça, j'en surprends toujours quand je le dis, là, mais je trouve ça intéressant de se le mettre en tête parce qu'au Canada, c'est légalement un médicament. Fait que c'est pas si banal que ça, des solutés. Là.
Non, c'est pas de l'eau. C'est vraiment pas de l'eau.
En tant que néphrologue, je vous confirme qu'il n'y a rien de banal dans un soluté.
Tout à fait. Écoute, ça a été vraiment un super bon résumé. Merci beaucoup, Louis-Frédéric. Je te laisse le mot de la fin. Si tu avais quelque chose à dire, là, qu'est-ce que tu dis à tes résidents, là, qui est un peu un résumé de tout ce qu'on vient de se dire par rapport à l'hyponatrémie, je te laisse le mot de la fin.
Donc, en résumé, ce que je pense le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que si votre patient, vous découvrez une hyponatrémie puis qu'il n'y a pas d'urgence à vouloir le traiter tout de suite parce qu'il est sur le bord de convulser ou sur le bord de l'œdème cérébral, s'il vous plaît, faites votre bilan urinaire. On va déjà savoir la cause et avec ça, on va pouvoir d'emblée partir le bon traitement et corriger adéquatement l'anatrémie.
Excellent, c'est un bon point. Je pense que c'est le message de beaucoup, beaucoup, beaucoup de néphrologues. Pourquoi vous n'avez pas fait le bilan d'électrolyte urinaire? Oui, je m'excuse, pardon, on ne le refera plus. On va le faire la prochaine fois.
Oui, ça, c'est toujours une bonne chose à retenir. Écoute, c'était un vrai plaisir, Louis-Fred, de discuter avec toi, également Yann. Je te remercie de l'invitation, de l'avoir accepté.
Ben, écoutez, moi, ça m'a fait un grand plaisir de venir vous parler de ça. Ça reste une de mes passions.
Parfait. Fait qu'hésitez pas de partager cet épisode-là avec tous vos collègues. Suivez-nous sur Apple Podcasts, Google Podcasts, sur Spotify. Je vous souhaite une bonne fin de soirée au nom de l'équipe du Francophone. À plus.
Bye tout le monde. Attention à vous autres.
L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.